Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie, comme chaque semaine, de Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour!
Et de François Genet.
Bonjour!
Oui, et bienvenue, ouais. Chers amis et chers collègues. Aujourd'hui, c'est une émission comme les autres, hein,
oui,
on pourrait dire ça.
C'est pas une émission spéciale.
Non,
warning,
non, absolument
ce n'est...
rien
Attention,
de particulier.
Ce n'est pas une émission spéciale.
C'est ça. Alors, d'entrée de jeu, aujourd'hui, on n'aura pas d'invité.
Oui.
On va critiquer trois films.
Oui,
oui,
oui, tout à fait.
Dont un en commun.
Donc, oui, quand même, un petit truc différent quand même.
C'est ça. Et on est bien content de vous retrouver pour donc ce magazine de cinéma qui s'assume. Hein? On ne le dit pas suffisamment.
Oui, c'est un beau slogan. Moi, je dis qu'on devrait
absolument,
le dire constamment.
Oui.
Tu vois, on a des appels présentement qui veulent entendre ce slogan-là.
Oui, exactement. Mais bon, on ne va pas le brûler tout de suite.
Non, c'est donc, sûr, on va entendre encore.
C'est ça. Et sur cette note complètement absurde, voilà, aujourd'hui, on va donc... critiquer le film qui était quand même hautement médiatisé, le film québécois Il pleuvait des oiseaux. Voilà,
oui.
Hein, attention au temps de verbe, très important. Donc Il pleuvait des oiseaux, film québécois de j'ai oublié son
Louise Archambault,
voilà.
Oui, mais il ne faut pas brûler tout de suite,
on va en parler plus tard. Mais en deuxième demi-heure d'émission, attendez-vous, là, on va avoir une critique commune là-dessus. On ne s'est pas consulté, on ne sait pas vraiment si l'un ou l'autre a aimé ou détesté ce film.
Je pense qu'on a réussi à voir le même film quand même.
Je pense que oui. Je pense que oui. Y avait-tu Rémi Girard dans le tien?
Oh, à voir.
Alors, c'est ça. Alors, en fait, non, c'était Dora.
Oui, c'est ça. Encore, c'était tellement bon. Je suis retourné le voir.
C'est ça. C'est ça. Donc, en deuxième demi-heure d'émission, on va s'occuper de ce film. On va en parler tous ensemble. Sinon, d'ici là, on va critiquer pour vous deux autres films. Mélina, t'as été voir un film qui s'appelle...
Arnaqueuse en talons.
Arnaqueuse en talons.
Qui met en vedette quand même Jennifer Lopez, ma cousine très éloignée.
Si éloignée qu'elle l'ignore.
C'est oui, ça.
Et en un mot, ce serait quoi pour toi ce film?
Oh là là, en un mot.
À date, ça va pas très bien.
En un mot, l'hésitation.
Hésitation,
peut-être.
Mitigisme.
Mitigisme.
Mitigisation, des mots comme ça.
Ah, mon doux.
Bon,
okay.
Ça promet.
Oui.
Et bon, ben, c'est ça. De mon côté, François, toi qui, comme d'habitude, est en break, t'es juste allé voir un film cette semaine.
Je me suis coulé douce, encore une fois.
C'est ça, moi, j'ai chômé un peu, je suis resté chez moi et j'ai écouté un film Netflix original paru récemment. Un film qui a été réalisé en France, donc ça fait partie des plans de Netflix de faire des films et des séries dans différents pays pour essayer de s'approprier ce milieu-là. Et en France, ben, y a le film La Grande Classe qu'on trouve plus facilement sur Netflix en cherchant avec les mots « Back to School ». Film français, donc je vais en parler un peu plus tard dans l'émission. Et en un mot, je dirais...
Mon doux, hésitation aussi.
Excrément. Donc,
excrément.
Excrément, non, mais il y a des raisons
c'est
pour
fort.
Ça.
C'est fort, non, mais c'est fort.
Il y a des raisons pour ça. On verra donc...
Quand même.
Plus tard.
On a hâte de voir ça.
Ça valait la peine. Alors voilà, tout ça un peu plus tard dans l'émission.
Oui, tout à fait. On a hâte.
Et maintenant, quelques nouvelles.
Ben oui, je vais commencer, en fait.
Bon.
Parce que François, tu m'as inspiré l'autre jour.
Ah, mon doux.
Tu as dit la phrase suivante. Tu as dit, moi, quand je trouve mes nouvelles pour l'émission, j'aime bien que ce soit en lien avec le film que je suis allée voir.
Ah oui, ah, j'aime tellement ça quand on me cite.
Mm-hmm. Ah oui. Donc voilà, fermeture des guillemets, citation de François Genet. Donc,
qui en perd
ses écouteurs.
Oui, tout à fait. Ses écouteurs.
Donc,
qui ne marchent plus vraiment, en fait. c'est
tu nous entends, histoire. François? Es-tu encore avec nous?
C'est vraiment de toute beauté. Bon, mais trêve de plaisanterie technique. Est-ce que. Donc, continue.
Je reviens à ma nouvelle. Donc, le lien n'est pas avec mon film à moi, mais est avec le film Il pleuvait des oiseaux.
Ah.
Parce qu'il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie d'un film qui va sortir. de la même réalisatrice qui est Louise Archambault, donc qui vient de nous donner Il pleuvait des oiseaux, qui nous a donné Gabriel en
2013.
Oh, oui, j'ai fait mes devoirs.
J'ai fait mes devoirs.
Et qui là va sortir un autre film qui s'appelle Merci pour tout et qui met en vedette Magali Lépine-Blondeau et Julie Perreault. Donc vous savez, à Cinébrunch, on est tous, en fait, Jim et moi, on est des grands fans de Magali Lépine-Blondeau.
Oui.
Et c'est la première fois qu'elle porte vraiment un film sur ses épaules, un long métrage. Donc, j'ai préparé pour vous un petit extrait de la bande-annonce. Donc, on écoute ça.
Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Marianne Cyr. C'est l'auteur du blog très sympathique, Ma vie me tue.
Oui.
Et là, elle arrive avec ses deux adorables démons.
Hey, non! J'entends un mot pendant l'entrevue, puis je vous achète des linges à vaisselle pour Noël. On se comprend-tu?
Elle est la femme du ministre Pierre Mercier. Elle est aussi la sœur de Christine C.
Vous êtes une actrice?
Mais non, chanteuse.
It's the most wonderful time of the year.
Je viens de chanter pour vous, là.
Ah, mais je pense que si je chante White Fucking Christmas à un autre party d'employés, je vais m'ouvrir les veines.
Ça m'a beaucoup touchée de te revoir. Un an, ça passe beaucoup trop vite. Bye!
Non, non. Papa est mort.
Vous voyez aller, moi?
Non.
Ben, qu'il s'attend pas à ce que j'aille pleurer sur sa tombe.
Il attend rien, il est mort.
Fait qu'il bat ton agenda, hein. Il y a 1000 affaires à faire. La morgue.
On est-tu censé dire quelque chose?
Le salon funéraire.
5000 piastres.
Mais il y a moins cher.
Sa maison à vendre.
Eh bien, ça a l'air, tout ça a l'air bien drôle.
Oui, en fait, donc, elle joue le rôle de deux sœurs qui sont en froid depuis un an.
Elle joue le rôle avec un S, elle. C'est...
Non, mais elle et Julie Perreault.
Oui, oui, tout à fait.
Oui, qui est aussi photographe.
Les deux, elle ne joue pas les deux rôles en même temps.
Non, c'est ça. Chacun en joue un.
Ah, ben c'est bien fait, ça. Moi, je pense que prix à la distribution, c'est de ce côté-là.
Oui, François, moi, je pense
bon
que
casting.
J'aime ça aussi quand il y a un acteur pour un rôle. Sinon, ben ça crée un peu la confusion.
Oui, mais...
Non, avez-vous été voir mon film, vous autres?
La
qualité de vos dialogues est très similaire.
Je voulais juste conclure sur ce film-là qui s'en vient parce que donc deux sœurs qui sont en froid, qui apprennent le décès de leur père et qui décident de... Ben, en fait, qui ne décident pas, qui s'en vont aux îles de la Madeleine pour répandre les cendres du père. Donc, on dit que c'est une comédie quand même et un road movie, donc un film de route des deux sœurs qui s'en vont ensemble. Donc, ça semble être très drôle. On a entendu dans l'extrait Magali Lépine-Blondeau qui joue le rôle d'une chanteuse, donc chanter dans la bande-annonce. Et des répliques du tac au tac, on dit que la scénariste a travaillé beaucoup sur Karma, des émissions comme ça, donc des dialogues répondants. On a très hâte de voir ça parce qu'on l'aime, Magali Lépine-Blondeau.
Oui, oui, tout à fait.
C'est vraiment une actrice extraordinaire, donc j'ai vraiment hâte de voir ça.
D'ailleurs, tu veux penser qu'on n'a jamais regardé la deuxième saison de Plan B?
Effectivement, et on devrait faire ça parce que Plan B... Mais quelle.
Mais là, elle sera probablement pas dedans. Mais,
Non, mais la saison 1, c'était magnifique.
Oui, mais à chaque fois que vous mettez ça sur votre horaire, c'est toujours le plan B.
Ben alors, voilà, ça tombe en plan B. Exactement.
Plan B,
merci beaucoup, Mélina. François.
Oui, en fait, début du tournage d'un film québécois qui s'est amorcé, le film Galant.
C'était ma nouvelle, ça.
Ah, c'était ta nouvelle.
Et mais bon, on va le faire ensemble.
On va le faire ensemble. Il y a tellement de trucs à dire. Hein. Voulais-tu dire qui. Une immense distribution là-dedans.
Oui, 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 absolument, absolument. Donc, évidemment, Luc Picard, qui réalise le film, joue aussi le premier rôle, celui de Gérald Galland.
Tout à fait.
Sinon, en compagnie d'Evelyne Gélina, Emmanuel Charret, Bobby Bechereau, qui me dit vaguement quelque chose, mais que je n'arrive pas à replacer, Maxime Godette, David Lahaye, Sandrine Bisson, Louise Portal, qui est quand même assez loin dans la liste, fait que je n'ai pas l'impression que c'est un gros rôle, Catherine Deléant et Raymond Cloutier, donc quand même pas mal de monde dans ce film.
Une méchante grosse distribution, et ça, on s'entend que c'est un gros film quand même, hein? C'est un méchant film. Et il y a à peu près 6,6 millions de budget, là, à peu près. C'est quand même un gros film.
Ben, Luc Picard, il est capable d'aller chercher du financement. Hein? C'est la beauté de la chose.
Oui, tout à fait. Et donc, il a tellement tombé en amour avec ça, avec ce personnage-là, que non seulement il réalise, mais effectivement, il joue le premier rôle dedans.
Ce qui est assez rare au Québec, ça.
Oui, mais il l'avait fait quand même deux fois par le passé.
Ah, c'est moins rare pour lui.
Pour l'audition et Babine.
Dans Babine.
Il avait joué
dans
Babine.
Mais il ne faisait pas le premier rôle.
Il ne faisait pas le premier rôle, par exemple, effectivement. Mais il a quand même connu ça, d'être sur un plateau et de faire de jouer les deux rôles. Donc, c'est intéressant à voir parce que c'est une grosse histoire, quand même, là, avec Gérard Galland qui...
Le tueur à gages connu.
Tout à fait. Avec, c'est basé sur le livre de Félix Séguin et Éric Thibault. Et ils vont se baser là-dessus pour faire ce film magnifique. Bon. Mais c'est beaucoup de scènes de tirage aussi, là, des scènes d'action qu'on de tirage. Oui, pas de tirage au sort. Oui, tout à fait. On fait des beaux concours là-dedans. Ça va être passionnant. Non, mais beaucoup d'action là-dedans. C'est rare que dans des films québécois, on voit beaucoup d'action comme ça, des films un peu à hollywoodien, un peu ce qu'on avait vu dans Bon Cop, Bad Cop.
Denis Villeneuve un peu. Là, mais
Oui, c'est ça. Puis qu'on trouvait ça intéressant, les scènes d'action dans Bon Cop, Bad Cop. Ben là, je pense qu'on va retrouver beaucoup de scènes d'action là-dedans. Puis ça va faire triper les acteurs aussi, qui ont rarement la chance de jouer ce genre de personnage-là. Puis est-ce qu'on va être capable de montrer, justement, puis de, tu sais, on fait ça moins souvent ici, donc est-ce qu'on va être capable de, justement, sortir un film aussi bon que qui va se mesurer, parce qu'on se mesure avec les Américains avec ces grands films là
oui, absolument, mais tu vois, c'est le genre de film qui pourrait éventuellement gagner un Oscar ou quelque chose comme ça. On sait jamais
surtout
que c'est basé sur une histoire vécue de tueur à gages.
Oui, ça pogne tout le temps, ces affaires là donc intéressant de voir ça. On va suivre ça de près à Cinébrunch,
sorti en 2020. Merci beaucoup, François.
Merci à toi.
Et oui, c'est le moment où Mélina va nous présenter sa critique du film
Les arnaqueuses en talons, donc Hustlers en anglais. Donc, c'est un film qui est sorti cette semaine, évidemment. Un film américain, donc un film un drame de crime qui est réalisé et scénarisé par Lauren Scafaria. Et donc, qui est basé sur un article qui est paru dans le New York Magazine en 2015. Un article qui raconte une histoire vraie, donc on peut dire que c'est basé sur des faits réels. Et ça met en vedette Constance Wu, Jennifer Lopez, donc comme je disais...
Constance qui?
Wu.
Ah, excuse-moi. Oui, poursuis.
OK. Jennifer Lopez, Julia Stiles, Kiki Palmer, Lily Reinhart, Lizzo et Cardi B. Donc, voilà.
Excuse-moi, je ris parce que François rit de ma blague à retardement en silence.
Oui, tout à fait. Non,
ou comme WHO.
Ah! Oui, c'est ça. C'était un moment magique de radio présentement.
C'était de toute beauté. C'est le côté visuel.
Définitivement.
On joue sur tous les tableaux.
Oui. Donc, pardonne-moi de t'avoir interrompu.
Oui.
J'imagine que tu veux écouter ta bande-annonce.
Ben, faisons ça!
On y va.
Je veux seulement pouvoir m'occuper de ma grand-mère, aller magasiner de temps en temps.
Quand j'étais petite, je voulais travailler avec les animaux. C'est un peu ce qu'on fait, non? Les gars de Wall Street, vous avez vu ce qu'ils ont fait à ce pays? Ils sont jamais gênés pour voler tout le monde. Des travailleurs honnêtes ont tout perdu. Et pas un seul de ces trous de cul est allé en prison. Le jeu est truqué. Et il fait jamais gagner ceux qui respectent les règles. C'est comme voler une banque. Sauf que nous, on a les clés.
Ben, voilà. Oh. Un autre Ocean 13?
Ben, en fait, non. Parce que là, je vais vous raconter un peu l'histoire. Peut-être qu'il y aura des divulgateurs, mais bon. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est un groupe de stripteaseuses à New York. Jennifer Lopez décide de prendre Constance Wu sous ses ailes. Donc, elle lui enseigne comment faire de l'argent avec les hommes. Donc, son travail, évidemment, dans un club de stripteaseuses. Donc, c'est là le rapport avec les gars.
D'où le concept d'arnaque. Là.
Non, mais en fait, ça s'en vient. Ça s'en vient. Parce que le film se passe... Non, Jim, quand même.
Ça faut attendre l'arnaque, là.
Je me calme.
Parce que le film est vraiment en deux
parties.
Au début,
il y a le à talons, puis après ça, il y a l'arnaque.
Oui.
C'est ça. Fait, tout le long, ils sont en talons. Mais vous allez voir, parce que ce film-là prend vraiment une tournure surprenante. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au début, il montre comment faire de l'argent. Donc, beaucoup, il dit, bon, il faut viser la clientèle qui a de l'argent, donc les gars de Wall Street. Et ils font leur truc de stripteaseuse, ils ramassent de l'argent. Et ce qui se passe, et là, on embarque un peu plus dans la deuxième partie, c'est qu'il y a le crash boursier. Donc, leurs clients n'ont plus d'argent pour venir au strip club. Parce que la majorité du monde qui était leurs clients de Wall Street sont ruinés parce que la crise financière. Donc, elles se perdent un peu de vue et se retrouvent un peu plus tard, en 2011. Et là, c'est là qu'elles vont développer un peu leur arnaque. Parce que ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles font un mélange de deux drogues, donc la kétamine et la MDMA. Et là,
ça a l'air d'être un show de cuisine, on se croirait à Ricardo.
Uh-huh. Oui, c'est ça, on dit que Ricardo a collaboré aux recettes.
Vous avez besoin de deux ingrédients.
C'est ça. Donc, ils font un mélange avec ces deux drogues-là. Donc, ils s'en vont, mettons, comment ça fonctionne? C'est qu'une fille va au bar, elle commence à parler avec un gars. Après ça, elle dit, ah, mes sœurs vont venir nous rejoindre. Fait que là, il y a trois autres filles qui arrivent, mais trois, fait que donc les quatre stripteaseuses. Ils donnent un verre au gars qui a la drogue dedans. Le gars est comme un peu endormi. Bon, ils l'amènent dans la cabine. Et là, ils prennent sa carte. Il leur demande son NIP. Et là, il retire de l'argent, mettons, 5 000 $ ou des choses comme ça. Et vous comprenez...
Je pensais qu'il était ruiné.
Non, mais ça, c'est après.
C'est en 2011.
C'est en 2011.
La deuxième partie.
C'est ça. C'est...
D'accord.
L'arnaque, c'est vraiment ça. Et le concept un peu derrière leur arnaque, et c'est un peu ce que Jennifer Lopez dit dans le film, c'est, ben, de toute façon, il ferait quand même, il dépenserait peut-être 5 000 $ cette soirée-là avec nous autres. C'est juste que dans ce contexte-là où elles droguent carrément le gars, elles n'ont pas vraiment à s'en occuper un peu et à faire leurs choses de stripper. Donc après ça, elles parlent entre elles, elles se font venir de la nourriture chinoise. Et elles font de l'argent comme ça.
J'espère qu'il y a une chute à cette histoire-là parce que... Hein?
Ben, la chute, c'est qu'à un moment donné... au début, les hommes, des fois, ils les appellent en disant « Comment ça, je me souviens de rien? Comment ça, j'ai dépensé 10 000 $ dans ma soirée hier soir? Ah, ben, t'avais du plaisir, tu t'amusais, tu voulais plus de services, disons. » Mais, et ensuite, ce qui se passe, c'est que là, les gars, il y en a un, à un moment donné, qui décide d'aller porter plainte, mais... C'est que même les policiers rient un peu parce qu'ils sont comme « Ouais, tu viens porter plainte, mais dans le fond, t'as eu une bonne soirée, tu t'es amusé, tu vois. Tu y es retourné deux fois après.
Ouais. »
Et bref, finalement, le film finit un peu que ils ont fini par réussir à les arrêter. Là. Quand même, on veut garder un petit punch pour ceux qui voudraient aller voir ce film-là.
Ce qui reste, ce qui en reste.
Et là, il y a une journaliste qui va interviewer la fille Destiny, qui est interprétée par Constance Wu, qui raconte l'histoire. Et donc, c'est sur cet article-là qui est paru dans le New York Magazine, sur lequel on se base pour raconter le film. Donc,
on voit la vraie dans le film, à la fin?
Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à la fin, la scène où elles se font, donc dans le sens que les policiers ont tapé une fille qui est comme rendue qui travaille avec les policiers, ont tapé une fille. Puis, donc, on a les vrais...
Caché un micro.
Oui, caché un micro, pardon. Et donc, on a les vrais enregistrements sonores qui sont mis sur l'image.
Ah, carrément, OK.
Carrément.
Ah, on est d'image de fiction, mais c'est les vrais enregistrements d'origine.
Mais avec le vrai son.
Ah, ça, c'est cool.
Ça, c'est un mix entre le documentaire
et la fiction. C'est ce que j'ai compris. On ne dit pas carrément en bas, ça, c'est les vrais sons, mais l'enregistrement est différent, on entend le bruit. Est-ce que c'est juste pour donner le sens que c'est ça qui se passe? Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui s'est passé.
Un peu comme un film de la NASA, là, tu sais... On va dans l'espace et on entend les vrais.
C'est juste la
on entend les courants d'air. Mais c'est un peu ça l'histoire du film. Oui. Donc, les arnaqueuses en talons, elles arnaquent parce qu'elles sont stripteaseuses et elles arnaquent des hommes et elles prennent de l'argent. Basé sur une histoire vraie, le film en tant que tel, l'histoire en tant que tel est quand même intéressante. Le film en tant que tel, je vous dirais que j'ai pas tant aimé ça plus que ça. Ça m'a fait remettre en question notre discussion qu'on a eue il y a deux semaines quand je vous ai demandé est-ce que les films basés sur des histoires vraies sont meilleurs?
Ouais. Peut-être là, non.
Pas dans ce cas-là, non. Je trouvais qu'il manquait quelques éléments dedans pour peut-être rendre ça plus intéressant, pour avoir justement, comme tu dis, une chute plus intéressante. Mais reste que Jennifer Lopez est excellente dans le film. Plusieurs parlent même que ce serait sa meilleure performance à vie dans un rôle.
Elle fait ses
scènes de pole dancing elle-même, donc elle a vraiment suivi des cours parce que Jennifer Lopez joue le rôle de Ramona qui prend, comme je disais, Constance Wu sous son aile. Donc elle lui enseigne parce qu'elle est déjà une stripteaseuse au top de la gloire avec son manteau de fourrure. Donc elle enseigne à sa nouvelle protégée comment bien stripteaser, comment faire des différents mouvements sur le poteau de pole dancing. Donc, vraiment, elle nous lit vraiment une belle performance, c'est vraiment nuancé. Puis il faut dire qu'elle est quand même rendue à 50 ans et elle se conserve quand même très bien. Donc, c'est ça pour Jennifer Lopez.
Mais ça, c'est intéressant parce que tu parlais de justement, quand on a eu la grande discussion sur les les faits réels puis les oui. films, est-ce que c'est plus intéressant? Je trouve que c'est intéressant quand même parce que ça t'a fait voir un peu, ça t'a fait faire de la recherche quand même un petit peu puis poser des questions sur ce qui s'était réellement passé.
Oui.
Fait que même si, au final, le film t'a pas plus emporté que ça, mm-hmm. au final, t'as quand même une connaissance de plus que t'avais pas avant puis que tu peux ressortir dans une discussion. Je veux dire, il y a quelque chose qui...
Comme les filles, c'est vrai que ça se plug bien dans une conversation. Tu sais, comme les filles qui ont arnaqué plein de gars à Wall Street en étant stripteaseuses en 2010.
Ça part toujours bien une conversation, tandis que, mettons, un film de Pat Patrouille, si tu l'as pas aimé, à un moment donné... Non, mais c'est plus difficile à plugger dans une conversation, tu sais.
Qui n'aime pas Pat Patrouille, François, quand même?
Non, mais je sais, mais exactement, dans l'éventualité que quelqu'un n'aimerait pas ça, évidemment, c'est de la fiction, c'est de la folie, mais on va là, mais tu sais...
Bon, on m'a dit que l'association des félins de Brossard n'aimait pas la série,
donc c'est quand même intéressant de voir ça,
oui,
puis en plus de ça, c'est intéressant parce que ça nous rend compte aussi que, tu sais, des fois, il y a des prix pour les gens qui sont capables de prendre des livres ou de les adapter, mais donc là, c'est aussi de dire... Ça prend un talent aussi pour adapter une vraie histoire, pour être capable de bien la raconter.
Ah, oui, c'est clair.
Donc,
on ne peut pas s'asseoir juste sur le fait que c'est...
Effectivement, on ne peut pas juste s'asseoir sur le fait que tu as une bonne histoire, qu'une histoire qui vaut la peine d'être racontée, pour que nécessairement tu sois capable de le traduire en images. Mm-hmm. Et on va peut-être en parler un peu plus, parce que le film qu'on est allé voir, Il pleuvait des oiseaux, est basé sur un livre. Donc,
qui
encore
est peut-être
là,
basé sur des trucs réels, je ne sais pas.
Oui, exactement. Donc, il y a tout ça que se passer de médium à l'autre, des fois, ça s'explique moins bien dans un certain médium.
Sinon, moi, j'avais un point que, au niveau de... Là, je comprends le concept là, de trucs basés sur des faits réels et tout ça. Est-ce qu'on critique un film? On a-tu déjà parlé de ça? Est-ce qu'on devrait juger...
De l'histoire.
Du fait que c'est basé sur des faits réels quand on critique un film? Ou justement, de considérer que le film est une production en elle-même et juger le film pour ce que c'est? Une apologie du film parce que, c'est des faits réels, ils ne pouvaient pas changer les cours de...
Non, je pense que définitivement, il y a façon de rendre un film... bon
ou mauvais
en gardant l'histoire, puis là c'est là que tu vas, tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense que le rythme au niveau du montage, c'était pas extraordinaire, les plans de caméra c'était pas extraordinaire non plus, donc tout ça qui aurait pu venir appuyer
le film. On parle
de
ton film là,
le film Les arnaqueuses en talons.
En talons, oui.
Ça l'aurait pu rendre le film meilleur.
C'est un boulot que t'as gardé, trompé
avec Héros en collant,
oui, là, c'est ça.
Tu sais, il y a des fois des ralentis, des choses comme ça que tu peux venir mettre pour dynamiser un film qui n'était pas dans ce rôle-là. C'est pour ça que je ne critique pas au niveau de l'histoire, parce qu'au niveau de l'histoire, c'est sûr que j'aurais des critiques à faire, dans le sens que les scènes où on voit les filles commencer à faire leur mélange pour droguer les gars sont amenées d'une façon super légère, super...
Comme si c'était pas grave.
Ça m'a quand même dérangé dans l'ère actuelle, dans le moment actuel. On essaie de conscientiser les gens, mais est-ce que ça, pour moi, du moins, ça ne veut pas dire que les femmes ont un passe-droit pour faire ce qui leur tente sous prétexte que les hommes ont déjà fait ça.
Non, mais
ça,
moi, je trouve ça intéressant, le point que tu amènes là. Ça ferait une excellente idée de parler de ça, en fait. Parce que je me dis, ouvrons une parenthèse, tandis qu'on est là. Non, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça passe mieux au cinéma de voir des femmes faire des gestes répréhensibles envers des hommes que des hommes? Parce que actuellement, avec les mouvements MeToo et tout ça, il y a une espèce de...
Mais moi, je dirais que c'est habitué de voir une critique de ça. C'était amené de façon tellement légère, de façon tellement... On met pas vraiment comme un peu comme...
Banalisation.
Oui, c'est tellement banal comme geste, comment ils ont fait ça, que ça m'a quand même choqué au niveau de la réalisation. Maintenant, au niveau des actes en tant que tels, je pense que d'un côté comme de l'autre, c'est pas correct.
Non, c'est sûr que c'est pas correct, mais est-ce que ça passe mieux? Est-ce
que oui.
Est-ce qu'on aurait pu faire un film à l'inverse, où des hommes manipulaient des femmes avec de la drogue, puis faire quelque chose d'aussi léger que ce film-là, et non pas de tomber dans une espèce de drame, et que ça passe publiquement.
Ça l'aurait peut-être crié plus.
Moi, je pense que ça aurait crié, il y aurait eu des boycotts des salles de cinéma, là. Tu comprends?
Peut-être ça aurait peut-être crié plus. Dans ce cas-ci, c'est juste... Oui, peut-être.
Je fais l'avocat du diable,
oui,
là.
Oui,
mais
tout à fait.
Je me dis, OK, oui, effectivement, il y a plein d'hommes qui ont fait des gestes répréhensibles, mais je pense pas que c'est une raison pour excuser que des femmes fassent la même chose.
Mm-hmm. Mais c'est donné, toujours de la façon que tu l'amènes. Si tu l'amènes de façon super légère, de façon les filles font la fête, ils popent du champagne, tu mets de la musique joyeuse en arrière de ça, puis tu reviens pas. C'est-à-dire que tout le long du film, on voit qu'on s'en fout discuter avec la journaliste où elles expliquent leurs actes. Donc, la journaliste, des fois, revient sur certains actes et va questionner. Et là, on a un peu comme... on pourrait dire l'avocat du diable qui est interprété un peu par la journaliste, si tu veux, qui revient sur des trucs, mais elle revient pas tant là-dessus. Donc ça, personnellement, ça m'a plus dérangée. C'est sûr. Est-ce que, comme tu dis, ça l'aurait passé? Je pense pas.
J'aimerais entendre Anna Arendt là-dessus pour savoir ce qu'elle en pense, mais moi, je pense que c'est une forme de banalisation très, très moderne là, qui est en train de s'installer à ce niveau-là là, dans le cinéma. Des choses qu'on n'aurait pas vues de cette façon-là il y a quelques années, peut-être parce que ça aurait été impopulaire de faire ça. Mm. Bon, je repense ne serait-ce qu'au film là, qu'on avait vu ensemble où c'était la première fois que des femmes se rébellaient et étaient en position d'autorité dans un film et ça avait été tout un scandale à l'époque. Le film qu'on a vu américain, là, où il se promène en voiture, en tout cas. Non, ça ne dit rien.
Le seul film. Tellement Héloïse.
C'est ça. Qui c'est se promène ça. En voiture. Oui, oui, oui. Bon, c'était pas clair ma description, qui... mais oui. Mélina, je savais que Mélina comprendrait avec ça.
C'est le film Tellement Héloïse, qui est un excellent film, qu'effectivement, beaucoup. Mais c'est qu'on est dans les années 70 quand ce film-là sort.
Ce film-là était hautement critiqué, effectivement, dans les années 70, alors qu'on regarde ça aujourd'hui, puis c'est dans la normalité totale. Ce film-là sortira aujourd'hui.
Parce que t'as deux femmes, puis qu'il tue un gars, et qu'ensuite il s'enfuit.
Oui.
Ça passe, c'est effectivement ça l'a fait beaucoup jaser à cette époque-là, ce film-là. Aujourd'hui, des femmes qui tuent un homme, hein?
Non, puis dans les deux sens, je pense pas que c'est pas ça moi qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est l'espèce de banalisation des gestes. C'est pas de faire ces gestes-là. Qu'il y ait des scènes de viol, qu'il y ait des scènes de on peut illustrer plein de choses. Au cinéma, le cinéma, ça sert à ça, de faire réfléchir, de faire d'illustrer un paquet d'affaires. Mais je pense qu'on peut pas mettre une scène de viol dans une comédie de la même façon qu'on en met une dans un drame.
C'est sûr.
C'est ça qui m'accroche un peu, parce que ce film-là, clairement, est amené pour quelque... Je sais pas si c'est une comédie dramatique ou quoi, mais c'est amené comme quelque chose de léger.
Quand même, oui.
Visiblement, c'est un divertissement. Là, c'est
encore
pas...
là, on peut faire l'avocat du diable aussi là-dedans, mais de dire, est-ce qu'on veut pas présenter l'état d'esprit dans lequel ces femmes-là étaient en disant, nous, on voyait pas ça comme une grosse affaire. Dans le sens où
de représenter
l'état d'esprit de ce qui s'est passé.
Oui, t'sais. Définitivement. Moi, ce qui me dérange, c'est que
la journaliste après, effectivement,
elle
vient
pas tant là-dessus, alors que moi, j'en aurais fait un point comme, voyons donc, ça n'a pas de sens. Dans tous les sens, on se bat pour que ces choses-là n'arrivent pas, puis on était, en tant que journaliste qui questionne certains actes, qui va revenir à la charge sur certains actes précis, mais dans ce cas-là, elle ne le fait pas vraiment.
Ouais.
Ça, c'est sûr que ça m'a dérangé. En
peut-être
plus,
que dans les deleted scenes.
Mais moi, je veux dire, dans un sens, je suis assez d'accord avec le fait qu'un film, c'est un carré de sable à la base où on peut expérimenter à peu près n'importe quoi. Puis si on a envie de faire un film qui met en scène la mentalité d'une personne peut-être très névrosée ou qui voit la vie d'une façon complètement différente et politiquement incorrecte, si ce processus-là amène ça, je trouve que c'est très légitime. Maintenant, il faut s'attendre à ce qu'un film comme ça soit critiqué.
Mm.
Ouais.
Et ce qui me dérange, c'est l'absence de critiques.
Mais ce film-là non plus a pas... Je veux dire, j'ai pas vu tant de publicité pour ce film-là.
On n'a pas voulu trop brasser le... Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas eu. En tout cas, ici, on n'a pas
définitivement.
Eu
beaucoup. J'en ai
pas vu beaucoup, effectivement.
Et il y a des gens qui disent que Jennifer Lopez pourrait être sérieusement considérée pour un Oscar, pour son interprétation dans ce film-là.
Ça, par exemple, ça pourrait faire jaser.
Oui. Ah non, c'est ça. En tout cas, mais puis tu lui donnais combien à ce film-là, comme note?
C'est une bonne question. J'y vais avec un 6 sur 10, dans le sens que ça passe. Dans le sens que si vous aimez ce genre de film-là, si le thème vous intéresse, allez-y. Mais sinon, allez-y pas.
Wow. Hey, ça, c'est la chose la plus claire qu'on a jamais entendue.
Oui.
Merci beaucoup, Mélina. De retour à Ciné Brunch pour cette deuxième demi-heure. Aujourd'hui, on vous parlera et on critiquera tous ensemble le film Il pleuvait des oiseaux, film québécois hautement médiatisé.
Hautement québécois.
Ah, oui, exactement.
Tout à fait.
Exactement. Et sinon, c'est ça. Moi, j'ai décidé de critiquer pour vous un film Netflix cette semaine. Oui, j'ai décidé de faire ça.
Mais avant, Jim, je veux juste revenir parce que vous vous êtes un peu moqué de moi pendant la pause sur le fait que j'avais dit que c'était un film à voir si vous vouliez aller le voir, mais que si vous vouliez pas aller le voir, c'était pas un film à aller voir. Mais je veux juste dire que c'est quand même clair dans le sens que si le film, de ce que j'ai dit, vous intéresse quand même, vous allez le voir, mais si vous savez pas quoi en penser, allez-y pas.
OK,
si vous êtes pas... certains que ça vous intéresse.
C'est ça, allez-y pas. Bon, exactement.
Voilà, ceux qui viennent de se joindre à nous comprendront absolument rien, vous nous écouterez en balado.
Oui.
Et dans tous les cas, c'est ça, moi je vais critiquer pour vous un film Netflix, quelque chose de nouveau, hein, qu'on n'a pas fait depuis quelques mois. Et pourquoi, en fait, j'ai voulu critiquer ce film-là, notamment parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait au cinéma. Et surtout parce que c'était un film français, je me suis dit, tiens, c'est le premier film Netflix créé, réalisé et joué par des Français.
Pour vrai?
Que je vois. Ben, j'ai vu des séries, okay. Mais j'ai pas vu de films
okay.
Que français tu vois, Netflix. Ouais. Ouais, original. Okay. On parle d'un film produit par Netflix. J'en ai vu plein sur Netflix, mais bon. Alors voilà, je vais vous parler donc du film La Grande Classe, qu'on trouve plus facilement sur la plateforme avec le nom Back to School, qui, vous constaterez, n'a pas tout à fait la même signification. Mais je trouve que le titre en français est beaucoup plus proche de la réalité si on est très sarcastique dans l'âme. Donc, au niveau du film, c'est donc une production française Netflix, réalisée par Julien Ward et Rémi Four. Le film met en vedette Jérôme Niel, l'humoriste Ludovic Day et Nicolas Bernot. Et on écoute, sans plus attendre, la bande-annonce.
3, 2, 1... Oui,
bah, il y aura les trois classes de 6e de l'époque, quoi.
C'est vachement sympa de sa part d'organiser ça au collège.
Bah, en même temps, on s'est barré du collège exprès pour plus les voir, là, Lopez, Hervé et compagnie, alors qu'est-ce qu'on s'en fout.
On était peut-être pas les mecs les plus cools à l'époque, mais maintenant, regarde-nous. On a réussi. Viens, on va leur montrer.
Ils vont être comme des oufs quand ils vont nous voir arriver.
Non !
Ben voilà. Alors oui, le film est un... Donc, vous l'aurez compris, une comédie hein, française. Et ce film-là...
Mais je suis pas sûr de comprendre, c'est quoi, c'est leur conventum?
Oui, en fait, c'est ça. Je vais vous expliquer un peu le résumé de l'histoire. En fait, alors, commençons par ça, parce que je vais faire assez court avec ma critique.
Oui, donc on va résumer le résumé.
Voilà. Donc, c'est l'histoire de deux amis d'enfance qui étaient victimes d'intimidation quand ils étaient jeunes, notamment parce qu'ils étaient un peu intello, aussi parce que l'un des deux, Jonathan, était grassouillet. Et il se faisait écœurer quand il était jeune, tout ça. Mais là, les deux amis sont restés amis tout au long de leur vie, et sont partis en business ensemble, ils ont une firme ensemble, ça se passe plutôt bien de ce côté-là, et 20 ans plus tard, après le secondaire, ils décident de confronter leurs vieux bourreaux et leurs anciens fantasmes de jeunesse en allant à la soirée des retrouvailles du secondaire. Mais là, évidemment, il va se passer un paquet de choses dans cette histoire-là, mais Jonathan, qui est un des deux garçons, a tellement perdu de poids qui n'est pas reconnu par ses pairs, par ses collègues d'école, ses écoliers. Bref, il n'est pas reconnu. Et les gens, Jonathan, ils finissent par le prendre pour Jonathan L'autre Lopez. Jonathan.
Il y a donc même des Lopez dans cette émission.
Ben oui, effectivement, le badass de l'école.
Ah, oui, on est comme ça, nous, les Lopez.
Oui, ben oui, effectivement.
Donc, Jennifer, oui, ce gars-là.
Bon, exactement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Lopez. Hein. c'est ça. Fait que là, évidemment... C'était le rebelle de l'école du secondaire. Fait que là, tout le monde le regarde avec « Ah ouais, t'étais rendu où? On n'a pas eu de nouvelles de toi? » Tout ça. Mais pendant ce temps-là, lui, c'est comme une taupe parce que, dans le fond, c'était le gars qui se faisait écœurer par Lopez. Donc, c'est ça. Alors maintenant, évidemment, je vais pas m'attarder sur la description de ce film-là parce que ce serait totalement sans intérêt. Pour être tout à fait honnête, ce film-là s'appelle La Grande Classe et au niveau du scénario, c'est vraiment pas la grosse classe.
Donc, bien joué.
C'est pas très bon. C'est absurde, mais pas un bon absurde. C'est vulgaire. Il y a des dialogues homophobes malaisants. On est vraiment dans un humour pipi-caca. Là. Notamment, l'un des personnages est surnommé Bozo la merde. on est dans ce type de film-là qui s'adresse à un public trop vieux pour le type de langage qui est dedans, à mon goût. Sinon, le film n'a absolument aucun sens.
mais dis-moi, Jim, toi qui aimes beaucoup les Français et la France, penses-tu que là-bas, les gens là, en France vont
Il y en a qui aiment les films vraiment divertissants comme ça. Tu sais, c'est un film qu'on voit comme le film Trip à 3 là, avec Patrick Huard. Là, ouais. On est dans ce genre de niveau-là, puis même encore moins bon. On essaie de nous faire passer des espèces de morale bizarre. Ah oui, c'est Martin Matt, excuse-moi.
Je me posais des questions. Pas réveillé. J'étais comme mon doux.
C'est vrai, c'était Martin Matt.
C'est ça.
J'ai le mental qui perd des affaires.
C'était tellement bon, on oublie c'était quoi.
ça doit être ça. On essaie donc. Mais de toute façon, moi j'ai toujours dit que Martin Matt et Patrick Huard étaient. On pouvait les remplacer.
Oui, mais c'est comme Brad Pitt et Leonardo.
Alors, voilà.
Il y en a un qui a des cheveux, par exemple.
Oui, ça, c'est... Oui. Ouais, effectivement.
Mais les deux ont des cheveux. Ah non, tu parles de Martin Matt, puis OK.
Oui, oui non.
Martin Matt, ça n'a pas. Jim.
Bon, nous, merci. Non, on vient
si
de mêler tout le monde.
Si vous permettez, j'ai dit que je ferais court, mais là, je sais qu'on a une tentative ici de saboter mes efforts. Donc, on essaie de nous faire passer des espèces de morales à deux ronds tout long. Ces morales-là sont détruites par d'autres morales, des trucs comme ça. On essaie vraiment des choses étranges. Le seul point positif du film, en fait, que je dirais, c'est que les acteurs ont vraiment l'air de s'amuser beaucoup. Donc, clairement, c'est du monde qui se connaissent. Ils ont du plaisir ensemble. Sinon, film totalement sans intérêt. J'espère qu'on aura de meilleures productions de Netflix France dans les prochaines années. Parce
est-ce que ça sent le film vite fait pour avoir un titre Netflix absolument? Tu sais, des fois, il y a des affaires de dire « Ah, là, il faut que ça sorte là pour qu'on dise « Ah, on est partout un peu au niveau publicitaire. Fit en prend un. »
Bonne question. Je sais pas jusqu'où ça a été publicisé tant que ça.
C'est que Netflix aime bien faire des films avec des jeunes inexpérimentés, des jeunes réalisateurs.
C'est le fun, ça. Oui. C'est le fun. Le problème, c'est que j'ai l'impression, puis en tout cas, ça sera un autre débat éventuellement, surtout au niveau québécois, on jugera du film québécois Netflix qui s'en vient, mais j'ai l'impression qu'il y a des endroits où quand on a soudainement trop d'argent, on ne sait pas comment le gérer. Qu'on ferait des meilleurs films avec moins de budget, puis quand on en a trop, on ne sait pas quoi faire avec.
On n'est pas tous des Denis Villeneuve. Il y a un côté créatif, des fois, qu'on a moins de budget, on veut essayer d'illustrer ça. Normalement, on aurait juste acheté de quoi pour illustrer ça, mais là, à
puis on
place,
juge moins un peu ce que les Chicken Swell faisaient. On juge moins un film de moins grand budget qu'un film.
Les attentes sont différentes.
C'est un peu comme Kino, en fait. La force de Kino, c'est de donner des contraintes aux gens pour justement leur donner un cadre dans lequel évoluer leur film. L'argent, c'est un peu ce même principe-là.
Exactement.
Et d'ailleurs, le Kino, est-ce que c'est bientôt?
Écoute, bientôt.
François Genet, animateur du Kino Show. J'ai hâte d'en s'en savoir
plus
sur le
Kino Show. J'ai pas entendu de nouvelles. Je me demandais ce qui se passait. J'ai été à deux doigts d'appeler la police.
Écoute, bientôt, on va vous venir avec tout plein d'informations sur le Kino. Restez à l'affût. Mais sinon, peut-être que ça serait le fun d'aller avec Netflix et
de faire. Ah ben oui, ça serait bien rattrapé, François.
Oui. Mais, pour conclure
mon film, je donne une note de 5 sur 10 à ce film qui respecte quand même les règles du cinéma en général.
Ce qui veut dire qu'il y a des images qui suivent une après l'autre.
Rythmiquement, c'est pas si mal. Il y a des bons points, il y a des bouts de dialogue qui sont drôles. C'est pas si mauvais que ça, mais on peut pas vraiment appeler ça un film réussi, à mon sens.
Okay.
Mais bon, quelqu'un qui a aucune connaissance en cinéma pourra peut-être pas évaluer ce film-là comme mauvais. Il va peut-être juste trouver que c'est pas drôle.
Il va dire, je sais pas c'est quoi, je comprends pas pourquoi, mais ça m'a pas fait rire.
Pas fait rire, puis c'était grossier et vulgaire et pas tant intéressant. Oui. Alors voilà, c'était ma critique du film. Oui, bon, il en faut des comme ça.
C'est évidemment
ce qu'on dit. Donc voilà, c'était ma critique du film Back to School en français, la grande classe. Merci beaucoup. Et c'est le moment de parler. Le cœur de cette émission réside dans ces quelques minutes qui suivent. On va parler donc du film Il pleuvait des oiseaux, dont François va nous faire le résumé.
Oui, tout à fait. Ben, commençons par le commencement. Tout à fait. Alors, dans le fond, distribution de feu. Quand même, Gilbert Scott, André Lachapelle, Rémi Girard, Ève Landry, Éric Robidoux, Louise Portal, et pour ne nommer que ceux-là.
Il n'y en a pas vraiment d'autres.
Je pense que j'ai oublié Kenneth Welsh. Donc, dans le fond, pour n'oublier que Kenneth Welsh, dans le fond. Non, mais c'est ça. Il y avait aussi une couple de figurants dans la patente. Mais en gros, c'est pas mal ces gens-là qu'on suit. C'est quand même des gros noms, on va se le dire. Réalisation, comme on a dit plus tôt dans l'émission, de Louise Archambault qui nous avait amené Gabriel en 2013.
Oui,
tout à fait. Alors, c'est un film où on voit trois ermites qui vivent reclus dans le bois, dans le fond, exclus de tout le monde. Il y a des incendies de forêt qui menacent la région. Leur quotidien va être un petit peu bousculé par la mort de quelqu'un, de leur doyen, dans le fond. Il va avoir l'arrivée d'une octogénaire qui va être jouée par André Lachapelle, justement, et qui va, dans le fond, changer pas mal de trucs dans leur vie. Il va y avoir une photographe, Eve Landry, qui est mandatée pour interviewer les témoins du feu le plus meurtrier de cette époque-là et essayer d'en parler, de trouver des gens qui ont vécu ça. C'est à peu près ça, en fait. Ça résume assez bien et on va l'entendre par la bande-annonce.
Je me demande qui je serais si j'étais resté ici. Une peine imbuvable. À qui la faute?
Je me suis perdue en auto, cul-de-sac. Puis, ben, j'ai entendu une voix, fait que c'est vous la voix.
Oh, ouais.
Fait qu'ici, juste vous deux.
Puis on n'existe pas pour personne.
C'est ma tante. Hein? C'est la sœur aînée de mon père. Je cherche un endroit pour la loger, un endroit discret. Elle va nulle part où aller.
Et nous autres, on veut pas de trouble. Si la police débarque ici, on va se rembourser d'un hospice à manger du mou. On va mettre quatre murs de béton derrière les barreaux. Ici, c'est juste en attendant.
Va falloir vous trouver un nom. Comment on vous appellera dans votre nouvelle vie?
Marie des Neiges. J'aimerais qu'on m'appelle Marie des Neiges.
On va aménager la cabane. On va la retaper, puis on va l'isoler un peu mieux.
Merci.
Il n'y a pas de quoi.
Quand même, hein? Ah. Tout à fait. Et je tiens à débuter avec la nouvelle suivante où André Lachapelle, elle a dit comme quoi que c'était le dernier film qu'elle faisait.
Ah bon?
Oui, on ne sait pas si elle va revenir.
Mais elle est assez âgée, mais autant que dans le film, mais elle est assez âgée.
Oui, c'est ça, mais elle a dit « je suis fatiguée, j'ai plus l'énergie que j'avais dans le temps ». Donc, elle a dit que ça devrait être son dernier film.
Parce que c'est quand même éprouvant des tournages pour les acteurs, on va se le dire.
Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est quand même éprouvant.
Est-ce qu'on va faire la télévision quand même?
On ne le sait pas encore. Le mystère plane, mais quand même, ça reste intéressant de regarder ce film-là en disant...
C'est peut-être le dernier film.
C'est peut-être son dernier film. Et elle pense aussi que c'est un film assez fort pour pouvoir dire « c'est mon dernier ». Et je quitte sur cette note-là. On ne veut pas quitter sur un navet. On ne veut pas quitter en disant « mon dernier film que j'ai fait, c'est La Grande Classe ». Tu comprends?
Non, effectivement. C'est ça. On ne voudrait surtout pas faire ça.
C'est ça. Donc, je pense qu'il y a aussi là-dedans quelque chose d'intéressant à garder en tête.
On verra si c'est son dernier bye-bye.
Oui.
excellent. Merci, François. De quelle façon voulons-nous procéder? Est-ce que vous voulez qu'on aborde des points précis ou on donne chacun notre appréciation?
Je pense qu'on pourrait commencer un petit peu généralement les grandes lignes de notre appréciation. Toi, Jim, as-tu aimé le film en général? Puis après, on pourrait aller en détail là, dans certains points.
En général, je dirais qu'après une demi-heure, j'avais le goût de partir, pour être tout à fait honnête. Okay. Le début ne m'a vraiment pas convaincu de ce film-là. Il y a des bons moments, il y a d'excellents moments. Il y a des moments moins bons. Je dirais que pour moi, c'est plus une question de rythme. Le gros problème du film, c'est beaucoup une question de rythme. Il y a vraiment... Ce film-là peut être à mourir d'ennui par moment. Et avoir soudainement une scène complètement extraordinaire en plein milieu de cet ennui-là. C'est dérangeant un peu, cette espèce de chamboulement-là, mais on sent pas que c'est maîtrisé. En tout cas, moi, à mon goût. Là.
Moi, je pense... Je me posais la question pendant le film, ce qui est quand même rare.
Tu te demandais est-ce que je m'en vais?
Non, je me posais la question justement du rythme, au niveau du rythme, parce que, déjà, je pense que j'étais pas nécessairement le public cible dans le sens où généralement, comparativement aux autres films que je vais regarder récemment avec Ghidorah...
Tu étais plus vieux, là, tu étais plus jeune.
Oui, exactement. Actuellement, je suis dans les plus vieux. Là, j'étais dans les plus jeunes. Je faisais rajeunir pas mal la salle. Mais je me posais la question. Puis, il y avait effectivement des belles scènes à travers. Puis après ça, on retournait dans un rythme très lent, où il se passe pas grand-chose d'intéressant, où on se dit pourquoi on a monté ça plutôt que d'autres choses. Ce qui me dérangeait un peu. Et je me suis posé la question en me disant... Peut-être que ce rythme-là, justement, nous permet d'apprécier encore plus les scènes.
Mais d'après. Peut-être, mais moi, ça n'a pas marché pour moi.
Non?
En tout cas, non. Ça n'a pas fonctionné. Ça me faisait décrocher, vraiment.
Oui.
Puis quand tu décroches,
c'est sûr, tu perds quelque chose.
C'est pas juste de t'ennuyer un peu pour revenir. Puis je sais pas, moi, ça n'a pas fonctionné. Je suis curieux d'entendre ce que Mélina pense.
Mais moi, je dirais, globalement, je dirais que mon mot pour ce film-là, ça serait aigre doux. Carrément.
Comme la sauce,
oui. C'est aigre, mais c'est doux en même temps. honnêtement, je comprenais pas le film. Tout le long du film, je me demandais où ça s'en allait. J'ai peut-être trop habitué à voir des films qui s'en vont à quelque part. Puis j'avais l'impression qu'on ouvrait plusieurs portes, dans le sens qu'on suivait un peu différents personnages, mais je me demandais où ça allait aboutir. Puis à un moment donné, le film s'est terminé sur une belle scène.
Il y a des histoires qui se sont pas abouties.
Il y a des histoires, oui,
mais en fait,
effectivement.
On peut-tu parler de ça? Parce que moi, je trouve ce film-là,
sa grosse, grosse lacune, c'est qu'il y a deux histoires en une qui sont pas aussi intéressantes les unes et les autres. Il y a l'histoire des ermites qui sont dans la dans les Pied-de-Marie des Neiges qui arrivent un peu chambouler leur quotidien, les feux de forêt dans leur passé et tout ça. Puis t'as l'histoire de la photographe un peu fouineuse, exagérément, qui écoute des films d'horreur avec un gérant d'auberge un peu no life qui aimerait beaucoup s'en aller mais qui n'ose pas de la campagne.
Moi, cette ces deux choses-là là, on peut-tu en parler?
Ne marchent pas. Cette relation-là n'a aucun sens. Ils se connaissent
on
même
pas. On a l'impression que la fille est peut-être un peu plus homosexuelle dans un certain sens.
Moi, j'ai pas senti ça, mais j'ai juste senti en fait qu'on a un peu escamoté peut-être cette relation-là, effectivement, où on n'a pas pris le temps autant que dans le restant du film. Tu sais, dans le restant du film, on prend le temps, justement. C'est ça que je trouve intéressant, dans le sens où c'est rare les films où on prend le temps de dire « on va regarder les belles images, on va en mettre du temps, on va mettre du temps où qu'on entend des chansons, puis qu'on regarde quasiment la toune. » C'est pas une biopic, là, mais on écoute la toune, puis on vit le moment.
Ça, c'est vrai. T'sais, ça, c'est des points positifs.
C'est des points positifs qui sont le fun. Puis là, t'arrives à ce moment-là, puis on dit « là, on prend pas le temps, ils arrivent, ils se voient pour la première fois, après ça, ils se tiennent la main, puis ils ont l'air d'être dans le sofa à évacher comme s'ils se connaissaient depuis 15 ans. » Puis là, t'es comme, mais tu vois pas la relation. Puis à la fin, au final, on voit pas non plus l'aboutissement de ces relations-là. On n'en reparle pas non plus à la fin beaucoup. Fait qu'il y a comme, on nous ouvre des portes sur cette relation-là. Puis à la fin, au final, on continue pas plus loin.
Je pense que ce film-là aurait pu être juste sur la relation qui se passe dans le bois. Là, sur
Moi, j'aurais éliminé ça. Puis je vais être honnête, là, mon impression, c'est que ces deux personnages-là ont été... Ben, en fait, là, c'est sûr, on s'entend que c'est basé sur un livre, là, on va être tout à fait honnête. Moi, avoir réalisé ce film-là, là, j'aurais éliminé tout ça. Même si ça ne va pas être fidèle au livre, parce que j'ai l'impression que ces deux personnages-là, plus jeunes d'ailleurs, là, la fille photographe puis le gars qui tient l'auberge, sont plus jeunes, puis d'après moi, ils sont juste là pour pas que ça fasse film de vieux, là. Tu vois, pour pas que ça fasse que l'âge moyen des acteurs est en haut de 60 ans.
Ouais, mais c'est que le rôle aussi de la photographe, c'est d'amener le contexte de dire pourquoi on s'intéresse à ces ermites-là. Le côté des grands feux, on veut essayer de chercher qu'est-ce qui se passe, puis c'est le prétexte, je pense, qu'on a trouvé pour rentrer dans la vie de ces ermites-là.
Oui, mais je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de prétexte pour aller là de la façon comment le film est lent.
De toute façon, ça a l'air bien plus facile que ce qu'ils disent de se ramasser dans cet endroit-là.
Oui, c'est sûr.
Finalement, tu sais, on apprend qu'il y a un autre chemin beaucoup plus direct pour se rendre là-dedans. Mais... on apprend que le gars va des fois dans le bar. Tu sais,
on aurait pu garder le jeune qui est le neveu de la madame.
La madame, à la limite,
éliminer tout le truc, la photographe, le neveu, il sort sa tante.
J'aurais juste enlevé la relation amoureuse, en fait, entre les deux. J'aurais juste enlevé...
Tant qu'à ça, ça aurait dû être la photographe.
L'attention amoureuse. Moi, je pense que l'attention amoureuse entre les deux...
Ben, qui est à peu près pas là non plus.
Qui est pas nécessaire. Non, mais ils écoutent des films.
Mais on ensemble, la sent pas cette tension-là.
Ils se comprenaient dans leur
Ils tiennent la main un peu. Ils font, tu sais, ça, je pense que c'était pas nécessaire. Mais au final, l'auteur, elle a dit justement, elle a relu le scénario à peu près 3 fois, 4 fois. Elle a été quand même mise là-dedans pour avoir son avis.
Non, je comprends.
Mais elle a dit que c'était pas... pareil comme dans le livre. Okay. Elle a dit « J'aimais ça parce que c'est pas différent. Le même médium. C'est pas le même médium. J'aimais
c'est
ça que la créativité... »
C'est correct aussi, moi, de réinventer. J'ai rien compris.
Mais c'est ça. Elle a dit « J'aimais ça que la créativité vienne et retouche à certains personnages pour que ce soit différent que mon livre. » Fait qu'elle était quand même d'accord avec ça, puis que quelqu'un d'autre le prenne sur son aile aussi.
Moi, même si
ça n'avait
pas été d'accord, ça m'aurait pas dérangé si j'avais aimé mieux ça. Puis je pense juste à notamment les Kubrick qui a repris des films, comme notamment le film de Stephen King, qui a repris parce qu'il n'aimait pas du tout la façon d'être fait. Finalement, Stephen King a décidé de refaire son film parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec l'interprétation de Kubrick. Après, on aime celui qu'on aime. Mais dans ce cas-ci, c'est même pas le choix que je décide, mais de la transition du livre vers le film. C'est vraiment le choix de la réalisatrice de pas... en tout cas, je sais pas. Je comprends ce que tu dis, mais moi, je trouve que ça gâche la poésie du film. Puis là, on essaie d'amener toute la dimension œuvre d'art là-dedans. Puis dans le fond, tu sais, être émerveillé devant des trucs, mais en réalité, on connaît rien de cette fille-là. Comment nous, on peut comprendre l'émerveillement? Ça aurait été beaucoup plus intéressant que la vieille dame, Marie des Neiges, elle s'émerveille devant ça.
Oui.
Tu sais, ça aurait été beaucoup plus fort que juste la rencontre du quotidien de Marie des Neiges avec... ces ermites-là. C'est là qu'était la force du film.
C'est
ces moments-là.
Mais justement, parlons-en de ça, parce que moi, ça m'a complète. Parce que moi, en fait, quand le générique est apparu, je me suis vraiment... J'ai éclaté de sanglots, puis jusqu'à ce jour, je comprends pas encore pourquoi.
La satisfaction de la complétion, que ça soit terminé.
Ça doit être ça. Non, non, mais c'est qu'il y a quelque chose dans son histoire à Marie des Neiges, parce qu'on n'en parle pas vraiment, mais qui est incroyablement triste, parce que c'est une femme qui s'est faite un peu enlever sa vie, dans le sens qu'elle s'est faite enfermer à l'âge de 16 ans, puis elle vient de sortir. Moi, ça m'a complètement chamboulée.
C'est de toute beauté, ça.
Et là, on la voit apprendre à nager pour la première fois. Je veux dire,
on la voit découvrir la vie.
Oui, il y a une poésie là-dedans.
Avec des vieux qui réapprennent à vivre aussi parce qu'ils se sont isolés du monde, comme s'ils étaient morts.
Oui, comme si c'était une deuxième vie pour chaque personne.
C'est ça.
Puis, il y a une grosse réflexion à y avoir aussi là-dedans.
Puis la scène, il y a une scène d'amour qui est magnifique. Mm-hmm. Ça m'a complètement renversée aussi.
Des scènes
aussi,
qu'on voit rarement au cinéma, des personnes plus âgées qui a une scène d'amour.
Mm-hmm. C'est rare. Ça fait la deuxième fois que ça arrive dans les dernières années.
Ça m'a fait penser justement au film « L'amour se creuse un trou ». Ça va nous revenaître, là.
Oui. Et moi, une autre chose que j'ai trouvée, c'est que beaucoup pendant le film, c'était des plans très, très, très rapprochés.
Ouais.
C'était on voyait souvent des gros plans sur les faces. Et je pense justement que ça nous aidait à rentrer dans le film, le côté de dire... Je me laisse pas berner par tout ce qui alentoure. Je rentre dans le personnage. Mm-hmm. On est dans des plans qu'on n'est pas non plus l'habitude de voir aussi souvent, aussi fréquemment.
Beaucoup de plans arrière où on voit les gens de dos.
Aussi.
Énormément de plans comme ça. Ça, c'était bien. La photographie était extraordinaire.
Oui. Oh, oui.
Vraiment rien à dire. Musicalement, c'est super intéressant. La majorité des pièces sont interprétées par Rémi Gérard.
Oui.
C'est
vraiment pas mauvais. Bon, le choix des pièces comme telles, ça, c'est une autre histoire, je suis pas tout à fait d'accord.
Non, mais ça fonctionne.
Mais ça fonctionne dans le sens que
on prend le temps d'écouter ces pièces-là.
Puis on sent que c'est pas enregistré vraiment. Ça fait pas studio.
Non,
ça fait vrai.
C'est un des points, je trouve, qui est très, très fort dans le film.
Tout à fait.
Par contre, au niveau audio, et là, c'est mon point à moi qui m'a beaucoup dérangé, on est vraiment dans un univers stéréo durant tout le film, à l'exception des pièces musicales où on a vraiment pris le temps d'avoir un son extraordinaire où on sent un côté, un surround. Mm. Le reste du temps dans le film, on se sent vraiment stéréo. Le son vient d'avant. On sent pas qu'il y a un souci du 3D en termes spatial.
Et en plus, on est dans la forêt. Ça aurait tellement pu...
Ça aurait changé l'expérience.
Ouais.
Est-ce que c'était voulu de nous ramener au dialogue ou au moment d'attente ou au visuel, peut-être? Mais moi, je trouvais que ça nuisait encore plus. Les moments lents et long est encore plus long à cause de ça, à mon goût personnellement. Puis c'est quand même assez rare qu'on voit ça comme problème dans un film comme ça, mais bon, c'est peut-être une question de budget là-dedans. Là. Sinon, au niveau des acteurs, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, en général, est-ce que vous étiez quand même assez...
Je trouvais qu'il y avait quelques scènes au début que j'ai vraiment accrochées, que j'embarquais pas, surtout lors de la relation qu'on parlait entre le jeune gérant d'auberge, que... Comme ça m'a fait ça aussi dans un autre film que j'ai vu, je crois, au printemps. On dirait que je ne sais pas s'ils
sont
dans
la continuité.
Mais il y a deux
niveaux d'acteurs dans ce
film-là.
Oui,
c'est ça. Ouais,
attends, Rémi Girard, Cicotte, puis La Chapelle.
Oui, mais ils se sont placés après, je trouve, les jeunes.
Il y a du haut de gamme.
Oui.
Ils se sont placés.
Ils se sont placés, mais dans les premières scènes, là, ça sonnait...
Mais Éric Robidoux n'est pas convaincant.
Non, c'est ça.
Je pense aussi que le texte qu'on lui donne l'aide pas à être convaincant.
Effectivement.
Je pense
qu'il manque quand même de maturité.
Oui, peut-être, mais j'écoutais quand même les mots qui sortaient, puis j'étais comme, c'est difficile de rendre ça naturel. Mm-hmm. Puis comparativement aussi au type de scène, ça clash encore plus.
Ouais.
Parce que t'as des scènes qui sont très « Ma tante, veux-tu aller là? » Puis là, après ça, dans l'autre, après ça, t'as des ermites qui sont là, qui ont des textes tellement puissants.
Je sais pas si ça vous a marqué, là, mais...
Ça tient les jambes, tu sais.
Une fois, il dit « Ma tante », puis on dirait que c'est le premier mot, la première fois qui dit ma tante de sa vie, là, genre le gars dans sa vie, dans sa jeunesse, il appelait ses oncles et ses tantes tantes ou je sais pas là, mais
avec leur nom.
J'avais l'impression que c'était la première fois que sa bouche articulait ma tante collée comme ma tante.
Puis moi, je voudrais revenir à Eve Landry aussi, qui je pense a quand même un potentiel intéressant comme actrice. Je la connais pas vraiment, je sais pas si elle a joué dans autre chose vraiment avant, mais ce que je remarquais, c'est comme si c'était pas dans le bon film pour elle. C'est un clash constant de ton de voix, de façon de communiquer, d'intérêt du personnage.
C'était un peu différent que des autres personnages.
Films, c'est ça. Ouais. Et comme dans un autre monde.
En même temps, c'était le but aussi.
On n'a pas joué avec ça.
C'est ça.
Ouais. Mais tu vois, moi, c'est ça. J'aurais fait de quoi de plus profond.
Ce personnage-là clashait littéralement avec les autres personnages. Puis je pense que de là, un bon choix d'aller chercher Eve Landry, parce que c'est quelqu'un qu'on a pu voir dans Unité 9, entre autres.
Ah oui, pour vrai?
Oui, tout à fait.
Je la replace pas en tout. Ben, j'ai pas vu Unité 9, c'est pour ça que je la replace pas.
Ah, c'est sûr que ça aide.
J'avais compris 19-2.
Ça aide. Non, c'est ça.
Non, mais toujours, les séries québécoises ont toujours des chiffres, ça, on se pose la question.
Oui, tout à fait. Mais c'est une bonne actrice, mais c'est ça, exactement. Je pense que ça clashait son personnage, puis on se posait la question plus sur... tu vois, il y a des questions qui rentrent...
Il y a des commentaires déjà, les auditeurs qui continuent à rentrer.
En folie.
Oui, c'est en folie. Mais effectivement, tout à fait d'accord avec ça. Mais sinon, le restant des acteurs, c'était effectivement très bon.
Alors, rapidement, vos notes, parce que le temps nous...
coule entre les doigts.
Disparaît, oui. Vos notes, rapidement.
Oui, Mélina.
Ah, c'est moi qui commence.
Oui. Ben oui.
C'est vraiment difficile, j'irais avec un 7.5 parce que les moments forts dans ce film-là sont extrêmement forts, mais les moments faibles sont extrêmement faibles.
Bon, moi, j'irais avec un 6.5 parce que c'est ça. Il y a des moments uniques, le scénario est original, mais le film est trop long, il manque de focus.
Moi, un 7.5 parce que je pense que ça a quand même le mérite d'être vu, malgré tout.
Oui, allez voir
ça. C'est une belle expérience, c'est différent.
Amenez-vous du popcorn, une ou deux bouts de bouteille.
C'est quand même 2h07, je pense.
Ouais, c'est un peu long. Ça arrive entre 1h30 tant qu'à moi.
Quand même.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau et de François Genet. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, pour un autre Cinébrunch, en rediffusion les mardis à la même heure ou en balado-diffusion sur notre site web cinébrunch.com. À la semaine prochaine.
Merci, Jim.
Merci.